Bonjour à tous. Cette semaine, dans Entretien avec un évêque, nous recevons l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich. Monseigneur Ulrich, bonjour.
Bonjour.
Alors, Monseigneur Ulrich, on parle beaucoup à l'approche des élections européennes du taux d'abstention. Les derniers sondages, le sondage IFOP, fiducial d'ailleurs pour Paris Match, fait état d'un taux d'abstention de 59,5%. On sent que les Français ont du mal à se sentir concernés par ces élections européennes qui arrivent. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux derrière ces prochaines élections?
Alors, le premier, c'est un enjeu général. La vie politique, aux échelles où nous devons la traiter, elle agit et elle réagit sur du long terme. Et le long terme, c'est pas très favorable à l'immédiat de la vie médiatique et à l'immédiat de la vie de chacune des personnes qui attendent de voir toujours des résultats de la politique sur leur propre vie personnelle. Or, les conditions dans lesquelles l'Europe s'est faite et se fait au jour le jour, avec une complexité de plus en plus grande des 27 pays concernés, rendent les nécessités politiques difficilement accessibles parce qu'elles représentent souvent du long terme et elles paraissent donc très éloignées de la vie des gens.
Aujourd'hui, voilà. Vous pensez que les Français ont un peu de mal à se projeter
pour la politique en général,
d'ailleurs. Politique en général,
pour
la politique en général, à penser long terme.
Voilà. Eh ben oui, c'est difficile de penser le long terme parce qu'on se soucie
de
ce qui va nous arriver demain. Voilà. Or, il faut quand même, deuxièmement, ça paraît éloigné, mais il faut quand même consentir à voir que l'Europe, depuis 60 ans, a permis la construction d'un ensemble de pays sur des termes de paix, de pacification et d'entente. Alors évidemment, quand ça va bien, quand on est dans l'entente les uns avec les autres, on ne voit pas parce que ça paraît normal. Voilà. Mais quand même, c'est une construction qui a permis cela. Et on ne peut jamais présumer que la mésentente, puis la violence et la guerre, soient loin. On sait bien qu'elle a été tout à fait à nos portes il y a 20-25 ans dans les pays balkaniques. On sait bien qu'elle est tout à fait à nos portes, la mésentente et la violence du côté de l'Ukraine. Et cela, ça nous menace en permanence. Et construire ensemble quelque chose, c'est quand même quelque chose de très important. Et on ne s'en aperçoit pas parce que ça paraît simple, ça paraît acquis qu'on est en paix les uns avec les autres. Mais on voit bien que la déroute de la réflexion sur l'avenir des peuples qui se vivent en Italie, peut-être un peu en Allemagne, en tout cas en Angleterre et assez souvent chez nous, cette déroute-là, elle est quand même bien présente et il faudra pas grand-chose pour transformer la déroute en désordre grave.
Pour vous, donc, le principal enjeu, c'est de prendre conscience que c'est un équilibre fragile, finalement,
oui, oui.
Et qu'il ne faut pas le fragiliser plus que ça.
Eh bien oui, et donc il faut pouvoir se dire que la construction européenne est toujours une œuvre en cours et qu'on a besoin, je crois, de s'aider. Alors, il y a aussi des enjeux que je n'oublie évidemment pas, qui sont les enjeux climatiques et écologiques, joints, comme l'a dit le Saint-Père François, à l'attention aux plus pauvres, parce que ces enjeux, quand on ne respecte pas l'avenir de notre maison commune, c'est en général les plus pauvres qui subissent.
Donc la dimension
cela.
Écologique voilà. Dans sa dimension intégrale.
Voilà, la question économique et sociale liée à l'écologie aujourd'hui est un enjeu formidable où il me semble que nos peuples ont besoin de construire ensemble.
Est-ce que vous pensez que c'est aussi peut-être un manque de compréhension sur le fonctionnement des institutions européennes qui peut être la cause aussi du désintérêt?
C'est bien clair. Il y a un principe qui a été adopté il y a un certain nombre d'années, le principe de subsidiarité, qui sortait d'ailleurs de la doctrine sociale de l'Église, qui dit les questions qui concernent la vie la plus courante et la plus proche des gens, qui peuvent être débattus au plus proche de leur vie, doivent être débattus au plus proche de leur vie. La subsidiarité, c'est le principe suivant lequel on essaie de toujours de traiter au niveau le plus proche de la vie les questions. Mais alors, il y a des questions comme l'écologie qui doivent être traitées à un niveau très, très large, même si chacun peut y prendre sa part. Mais ce principe, finalement, est-ce qu'il a été appliqué sur la taille, le contenu des yaourts livrés dans toute l'Europe? Peut-être pas. On a peut-être cherché à trop cadrer des choses qui étaient de la vie courante, de la vie quotidienne, et on est peut-être entré dans trop de détails qui ont rendu la construction européenne un peu illisible.
Donc décentraliser et retrouver la subsidiarité qui est promue par l'Église.
La subsidiarité, c'est-à-dire on s'occupe des questions là où elles se posent.
Merci, Monseigneur. Alors, après l'Europe, tournons-nous un petit peu dans cet entretien sur l'Église. On le voit en ce moment, il y a des réflexions qui courent, des théologiens, des théologiennes, des journalistes qui prennent la parole pour réfléchir à une éventuelle réforme de l'Église, notamment liée à ce qu'on appelle la crise du cléricalisme. Est-ce que vous ne pensez pas là aussi que, justement, ce cléricalisme qui s'est installé dans certaines communautés et dans certaines paroisses n'est pas là aussi le fruit d'une mauvaise compréhension de l'Église, de cette institution et de comment est-ce qu'elle fonctionne, sa structure, son rapport au pouvoir, son rapport au service?
Oui, c'est-à-dire ça, c'est un danger permanent. Le cléricalisme étant une tentation du pouvoir, on trouve ça dans l'Évangile, les trois tentations que Jésus a subies au début de son ministère et qu'il a repoussées victorieusement, mais qui ont fini par l'abattre lui parce qu'elles étaient vécues par les autres et que c'est ça qui l'a condamné. Ces trois tentations, parmi ces trois tentations, il y a la tentation de la domination.
De pouvoir.
Du pouvoir. Et la tentation de la domination est une tentation permanente de l'existence des hommes. Voilà. On se met au service les uns des autres et on peut pervertir ce service en rendant service aux autres, mais en affirmant son pouvoir à leur égard. Et donc ça, c'est tout à fait terrifiant. C'est une vraie tentation. Et je crois que la conversion permanente de l'Église, des hommes et des femmes d'Église, à ne pas peser sur les autres de quelque façon que ce soit, mais à se mettre bénévolement, gratuitement et humblement au service les uns des autres, demeure une condition primordiale de la vie évangélique. Il faut sans cesse lutter.
On voit pas mal d'idées qui fleurissent à droite et à gauche, mais l'Église, est-ce qu'elle est une institution comme les autres qui peut être réformée comme les autres, c'est-à-dire comme une association ou une entreprise?
Je ne le crois pas, en effet, parce que la vraie réforme de l'Église, c'est toujours la sainteté, c'est-à-dire c'est toujours l'humilité qui est requise pour que chacun reconnaisse qu'il est lui-même sur un chemin où il risque de dominer les autres, de vouloir prendre leur place, de vouloir faire à leur place, de vouloir faire dominer ses propres idées et son propre champ de compétences sur autrui. Alors ça guette
tout le monde.
Les évêques, les prêtres et les autres ministres de l'Église, et ça guette aussi le sacristain de la dernière petite paroisse aussi bien qu'il... Voilà, chacun.
Chaque membre de l'Église, en fait.
Chaque membre de l'Église peut affirmer son pouvoir et peut vouloir protéger son propre secret, d'une certaine façon.
Donc la réforme de l'Église commencera, un peu à l'image de Saint François, par une réforme de soi-même.
Eh bien, c'est comme toujours. Oui, c'est-à-dire, il y a toujours cette phrase un peu terrible de Bernanos, l'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints.
Alors, on va parler de l'Église encore avec vous, Monseigneur Ulrich, dans cet entretien. Le 30 mai prochain, l'Église fêtera l'Ascension, la fête qui célèbre la montée au ciel du Christ après sa résurrection. En quoi cet événement peut-il encore rejoindre nos contemporains aujourd'hui, dans leur vie quotidienne?
Il affirme à la fois la présence du Seigneur à son Église et à l'humanité, mais la présence discrète. Il se retire, il se rend invisible d'une certaine façon, mais il est encore là pour montrer aux hommes qu'il les accompagne, qu'il les aime et qu'il essaie de les conduire sur un chemin de conversion et un chemin de bonheur fraternel vécu ensemble. Voilà. Mais il essaie, justement, il se retire de la même façon que Dieu le Père, en créant le monde, le crée en se retirant, suivant la fameuse phrase de Hölderlin, Dieu crée le monde en se retirant. C'est-à-dire, il laisse la place à la vie, il laisse la place à l'humanité, il laisse la place à l'univers qui se distingue de lui et qui n'est pas lui. Mais de la même façon, le Christ, en ayant montré le chemin du salut, se retire, se rend invisible, mais
continue de vivre
et d'être présent, comme l'a dit le pape dans son texte pour les jeunes. Il vit et il est là pour chacun d'entre nous.
Il vit le Christ, c'est le nom de l'exhortation apostolique du pape François, exactement, Christus vivit, qui est à destination des jeunes. Finalement, rappeler que le Christ vit, c'est le cœur de l'Église.
Oui, rappeler que le Christ vit et qu'il est le mystère d'une présence aimante et bienfaisante, ça c'est le cœur de notre bonne nouvelle.
Alors l'Église de Lille, elle aussi, est particulièrement tournée vers le jeune cette année, avec ce qu'on appelle l'année jeune. Oui. Et le 30 mai prochain, jour de l'Ascension, tous les réseaux jeunes du diocèse sont appelés à se rassembler à Dunkerque.
Oui.
Pour une journée de fête, le Festivant. Être à l'écoute de la jeunesse pour un évêque, pourquoi est-ce que c'est important?
J'essaie de l'être très souvent. Tous ces jours-ci, je suis dans les rencontres avec des jeunes qui demandent la confirmation, avec des adultes aussi, mais avec beaucoup de jeunes qui demandent la confirmation. C'est très important parce que, à la fois, j'entends comment ils sont différents, comment ils ne sont pas... ils expriment leur génération, l'expression de leur génération, qui est bien différente de celle qui a 40 ans, qui est bien différente de la mienne, mais qui exprime un désir de vivre, qui exprime un désir d'aimer, qui exprime très souvent un désir justement écologique, et qui exprime le désir aussi de participer à la vie du monde et à la vie de l'Église, certainement de façon assez différente des générations précédentes, et qui exprime des inquiétudes sur son avenir, sur l'avenir du monde, sur la façon dont ils pourront prendre place dans la vie de ce monde et prendre leur part de la construction. Ils ont le désir, parfois ils ont le sentiment que les vieux bouchent les artères.
Un grand merci, ça sera le mot de la fin, un grand merci Monseigneur Ulrich pour cet entretien.